Iowa, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à toutes et à tous, le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du lundi 23 octobre 2023, en direct de Washington, Idrissa Sidoudia. Pour commencer, les titres. Le président américain Joe Biden et ses alliés occidentaux discutent de la guerre entre Israël et le Hamas. Les États-Unis mettent en garde l'Iran et renforcent leur présence militaire dans la région. Un convoi humanitaire entre de nouveau dans Gaza. Disant son personnel en danger, l'ONU a accéléré son départ de Dessalines au Mali. Près de 1500 migrants africains sont arrivés aux Canaries pendant le week-end. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Le président américain Joe Biden et les dirigeants des principales puissances occidentales avec lesquelles il s'est entretenu ont réitéré dimanche leur soutien à Israël tout en appelant au respect du droit humanitaire international selon un compte-rendu de la Maison-Blanche. Mohamed Oumfa.
Monsieur Biden s'est entretenu avec le président français Emmanuel Macron, le chancelier allemand Olaf Scholz, le premier ministre britannique Rishi Sunak, le premier ministre canadien Justin Trudeau et la première ministre italienne Giorgia Meloni, a indiqué la Maison-Blanche. Les dirigeants ont réitéré leur soutien à Israël et son droit de se défendre contre le terrorisme et ont appelé au respect du droit humanitaire international, notamment la protection des civils, a indiqué la Maison-Blanche dans son compte rendu des discussions. Le communiqué précise que les dirigeants ont évoqué le sort de leurs propres citoyens pris au piège de la guerre, en particulier ceux qui souhaitent quitter la bande de Gaza. Les combats font rage dans l'enclave palestinienne où des dizaines de personnes ont été tuées par de nouvelles frappes israéliennes dimanche et où la situation humanitaire se détériore.
L'armée israélienne a amassé des dizaines de milliers de soldats aux abords de Gaza et à sa frontière avec le Liban. À cette frontière, les échanges de tirs meurtriers se sont multipliés entre l'armée et le Hezbollah, tandis que les habitants évacuent la zone frontalière de part et d'autre. Les violences se sont également multipliées en Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967, où 93 Palestiniens ont été tués par des tirs israéliens depuis le 7 octobre, selon l'autorité palestinienne. Des dizaines de milliers de manifestants pro-palestiniens ont manifesté dimanche devant le siège de la Commission européenne à Bruxelles et dans d'autres villes pour demander l'arrêt des bombardements sur Gaza. À Genève, des pro-israéliens ont manifesté pour la libération des otages du Hamas. Alexandrine Rolognon nous en dit plus.
Des milliers de personnes brandissant des drapeaux palestiniens et scandant « Gaza, Paris est avec vous » se sont rassemblés hier pour la première manifestation pro-palestinienne autorisée par la police à Paris. Environ 15 000 personnes se sont rendues sur la place de la République, selon les chiffres de la police, pour exprimer leur solidarité avec les Palestiniens et appeler à un cessez-le-feu. Le bilan des frappes à Gaza s'est alourdi à plus de 4 700 morts. À Bruxelles, des milliers de personnes ont défilé dans les rues, brandissant des drapeaux palestiniens et scandant « Palestine libre ». À Sarajevo aussi, plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées dans un rassemblement pro-palestinien. À Genève, une manifestation a regroupé plusieurs centaines de comités d'organisations chrétiennes et sionistes devant le siège de l'ONU pour exiger la libération des otages du Hamas. Le pape François a aussi appelé hier à la fin de la guerre entre le Hamas et Israël et à une augmentation de l'aide humanitaire à la bande de Gaza.
Pour ce qui est des victimes israéliennes, plus de 1400 personnes ont été tuées sur le territoire israélien par les hommes du Hamas depuis le 7 octobre. En majorité des civils fauchés par balles, brûlés vifs ou morts de mutilations au premier jour de l'attaque des combattants du mouvement islamiste palestinien mené à partir de Gaza, selon les autorités israéliennes. Le Pentagone a annoncé un renforcement de son dispositif militaire dans la région. Le ministre américain de la Défense, Lloyd Austin, a prévenu que son pays n'hésiterait pas à agir si ses intérêts sont visés. Le point avec Abdulrahman Diab.
Le ministre américain de la Défense, Lloyd Austin, et son homologue des affaires étrangères, Anthony Blinken, ont exprimé leur vive préoccupation face au risque d'embrasement de la région. Après 2 semaines de guerre contre le Hamas palestinien, Israël se prépare à une offensive terrestre dans la bande de Gaza. L'Iran, allié du Hamas, a averti Washington et l'État hébreu que la situation risque de devenir incontrôlable au Moyen-Orient. Nous sommes inquiets de la possibilité que des intermédiaires de l'Iran fassent monter leurs attaques contre notre personnel et nos ressortissants, a déclaré le secrétaire d'État Anthony Blinken. Le secrétaire à la Défense Lloyd Austin a martelé à l'adresse de ceux qui chercheraient à élargir le conflit. Nous préserverons notre droit à nous défendre et nous n'hésiterons pas à agir en conséquence. Washington a annoncé le déploiement d'un système de défense antimissile et plusieurs batteries de missiles sol-air dans la région. Selon le Pentagone, les forces américaines vont être renforcées dans la région pour répondre aussi vite que nécessaire.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La mission de l'ONU au Mali a annoncé hier avoir accéléré son départ la veille du camp de Tessalit dans un contexte tendu et en mis, selon elle, en danger son personnel. Le camp de Tessalit a été ensuite entièrement récupéré samedi par l'armée malienne. Le point avec Eric Manirakidza.
La MINUSMA s'est désengagée de Tessalit alors que la région de Kidal est le théâtre d'une escalade militaire entre groupes séparatistes pour le contrôle du territoire. La mission de l'ONU dit avoir achevé son retrait accéléré de cette base dans un contexte sécuritaire extrêmement tendu et dégradé, mettant en danger la vie de son personnel. Les derniers personnels sont partis samedi dans un convoi terrestre en direction de Gao, la plus grande ville du nord du Mali. La MINUSMA affirme avoir pris la décision difficile de détruire, désactiver ou mettre hors service des équipements de valeur, une option de dernier recours suivant les règles de l'ONU. Ces équipements ne pouvaient pas être retournés aux pays contributeurs de troupes ou redéployés vers d'autres missions de maintien de la paix. Le camp de l'ONU à Tessalit était constitué surtout de soldats tchadiens. Il reste encore notamment l'évacuation du camp de Kidal, ville bastion de la rébellion à dominante Touareg.
Plus de 1300 migrants africains ont atteint les îles Canaries ce week-end. Ayant à bord 321 personnes a battu les records. Le point avec Nani Talani.
1325 migrants ont atteint les îles Canaries entre vendredi et dimanche, ont indiqué les autorités espagnoles. Un porte-parole des services d'urgence a déclaré que tous les arrivants venaient d'Afrique subsaharienne sans préciser leur nationalité. Samedi, 321 personnes ont atteint l'île d'El Hierro à bord d'un seul bateau, a déclaré un porte-parole des services de secours, dépassant le précédent record de 280 personnes à bord d'un seul bateau le 3 octobre. La chaîne de télévision espagnole TVE a montré des images d'un bateau multicolore rempli de passagers souriants arrivant au port. Les dernières données du ministère espagnol de l'Intérieur montrent que 23 537 migrants ont atteint les Canaries entre janvier et octobre. La première quinzaine de ce mois a enregistré 8 561 arrivées, un record depuis 2006. Pour le ministre de l'Intérieur, Fernando Grande Marlaska, le pic des arrivées est dû à la déstabilisation politique au Sahel.
Au Burundi, remise en liberté du président d'un petit parti d'opposition, le CODEBU, Kefa Nibizi avait été arrêté mardi et écroué à la prison centrale de Mimpa à Bujumbura, accusé d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Le 13 octobre, le CODEBU avait posté sur la plateforme X, l'ex-Twitter, un message critique envers le gouvernement à l'occasion de la commémoration du 62e anniversaire de l'assassinat du héros de l'indépendance, le prince Louis Rwagasore. Il invitait à la population à ne pas céder à la résignation et de prendre exemple du prince Rwagasore pour redresser, selon ce parti, la situation qui ne fait qu'empirer. La Minute Éco, Nathalie Barge.
Au Nigeria, le gouvernement de l'État du Delta a signé un contrat de 78 milliards de naira avec la compagnie Julius Berger pour construire 3 ponts autoroutiers, un échangeur et l'extension d'axes routiers dans le district de Wari. Les infrastructures routières de la région sont endommagées par les gros porteurs de pétrole. Le gouvernement du Delta a indiqué que le choix de cette compagnie repose sur son expertise dans la construction de routes sur des terrains fluviaux. Des propositions ont été élaborées par 73 pays à Bali en Indonésie en prévision du 10e Forum mondial de l'eau l'année prochaine. Les organismes de coordination du processus politique ont communiqué une feuille de route. Des accords de coopération ont été conclus avec l'Institut méditerranéen de l'eau, le Forum Asie-Pacifique sur l'eau et le Conseil des ministres africains chargé de l'eau. Selon l'Organisation météorologique mondiale, la quantité de poussière dans l'air a augmenté en 2022. Les régions à l'origine de la hausse des émissions sont le centre-ouest de l'Afrique, la péninsule arabique, le plateau iranien et le nord-ouest de la Chine, indique l'OMM, soulignant qu'une mauvaise gestion de l'eau et des terres favorise les tempêtes de sable et de poussière. C'est la région de Bodel au Tchad qui affiche la concentration la plus élevée.
Merci Nathalie. À présent, les sports avec Élisée Oumpatine. Élisée, bonjour.
Oui, bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Football avec la Ligue africaine de football. Les derniers matchs des quarts de finale ont eu lieu hier.
Oui, et le TP Mazembe se rassure à domicile 1-0 devant l'Espérance de Tunis dans un match délocalisé à Dar es Salaam en Tanzanie. Même score en faveur des Marocains du Wydad de Casablanca en déplacement sur le terrain des Nigérians d'Enyimba.
Les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns se sont rassurés aussi à l'extérieur.
Le club de Pretoria a pris une sérieuse option sur la qualification en allant battre le Petro Atlético à Luanda 2-0. Bon résultat aussi pour Al Ahly du Caire, qui a ramené le nul 2-2 de son déplacement en Tanzanie face à Simba dans un match spectaculaire pour lancer cette nouvelle compétition des clubs en Afrique. Les matchs retour auront lieu mardi et mercredi.
Basketball à présent, les qualifications pour la Basketball Africa League se poursuivent.
Tout à fait. Et le groupe C, qui a regroupé 4 clubs en Tanzanie, a livré son représentant pour l'élite 16 de la division S. Ce sont les locaux de Pazi BBC, victorieux 69-67 des Kenyans de Port Authority. La poule D, basée à Gaborone au Botswana, est à sa deuxième journée de ses qualifications. Et les Zambiens de Mounali signent leur seconde victoire, cette fois face au club hôte, les Dolphins 63-61. Succès également des Zimbabwéens de JBC 70-55 devant les Namibiens d'Unam.
Rugby pour terminer, l'Afrique du Sud défendra son titre en France.
Oui, et c'est à l'issue d'un match explosif et palpitant en demi-finale que les Springboks ont vaincu de justesse l'Angleterre 16-15. Menés durant toute la rencontre, ils sont passés devant à 3 minutes du terme grâce à une pénalité de leur ouvreur André Pollard. L'Afrique du Sud défendra bien son titre samedi prochain contre la Nouvelle-Zélande qui a facilement écarté l'Argentine 44-6. La 10e finale de cette Coupe du Monde de rugby se jouera donc entre nations de l'hémisphère sud.
Merci Élisée.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seloudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Gabon, le président de la transition, le général Brice Oligui Nguema, se contente de son salaire de commandant en chef de la garde républicaine et renonce à celui de chef de l'État. Bien que largement salué par la population, cette mesure ne brise pas le tabou du traitement salarial au sommet de l'État. Voici quelques réactions recueillies à Libreville par notre correspondant Ismaël Obiangze.
Le président de la transition, président de la République, a décidé ce jour de renoncer à son traitement de président de la République.
Ulrich Mafumbi, porte-parole du comité pour la transition et la restauration des institutions, annonce que le général Brice Clotaire Oligui Nguema renonce à son traitement de chef de l'État. Pour Maître Luc Gaston Maïla, acteur politique, une telle mesure doit déboucher sur plus de transparence.
C'est le moment, le bal est ouvert, que le président ouvre la négociation, qu'on sache que le chef de l'État gagne tant, le premier ministre gagne tant, mais que ce soit normé.
Depuis la nuit des temps, le salaire du chef de l'État et des hauts cadres de l'administration gabonaise reste un sujet tabou. Le président du CTRI donne un exemple à suivre, selon Delphin Mayoga, un militaire à la retraite.
C'est militaire. Il a un salaire. Il n'a pas besoin de ruiner les Gabonais, hein, pour se faire plaisir d'un salaire de surprise. Parce que il a pris le pays pour 2 ans.
Dans la foulée, d'autres mesures pour assainir les finances publiques sont annoncées. Elles portent sur la réduction de l'indemnité des parlementaires et la suppression des fonds politiques. Guy Noël Nkoulou, fonctionnaire.
La masse salariale qui est dégagée par toutes ces administrations et toutes ces personnes peut contribuer à faire autre chose.
D'autres voix appellent désormais le président du CTRI à un élargissement de sa décision. Paul Babe, selon l'ancien maire de Libreville.
J'espère que le président va faire la proposition à tout le monde. Moi, j'ai renoncé à mon salaire. Maintenant, je demande aux autres d'en faire autant au niveau où ils peuvent pour que nous puissions résoudre les problèmes que nous avons maintenant.
Michel Lacolombe est élève.
Pas qu'on dit aux autres, on doit les imposer de aussi faire. Enfin, même s'ils ne renoncent pas, au moins ils diminuent un peu dans leur salaire. Ça fera qu'on prendra le reste pour mettre ça dans ce qui est utile à faire pour le pays.
Les militaires au pouvoir ont accusé le régime déchu de gabégie et des détournements de fonds publics. Plusieurs anciens dignitaires ont été montrés avec des sacs, malles et valises bourrées de billets de banque. L'ancienne première dame, Sylvia Valentin Bongo, et son fils Nourine Valentin Bongo sont toujours en prison en attendant leurs éventuels procès pour corruption. Ismaël Obianzé pour VOA Afrique, Libreville.
Restez à l'écoute de VOA Afrique 24 heures sur 24 sur 104.3 FM à Brazzaville et 98.3 FM à Pointe-Noire.
Au Congo-Brazzaville, l'expérience des cantines scolaires fait l'objet d'une exposition photo organisée par le Programme alimentaire mondial au cours de laquelle le PAM a invité le gouvernement à reprendre en main cette activité. Notre correspondant à Brazzaville, Arsène Séverin, s'est rendu à l'heure du repas à la cantine scolaire de Djiripon. Son reportage.
Djiripon, une école à une vingtaine de kilomètres au nord de Brazzaville, où plus de 600 repas sont servis à la cantine scolaire. Selon Firmin Samba Onzomba, la directrice de l'école, cette expérience booste le taux de fréquentation des élèves.
Pour moi, cette semaine-là, les élèves sont arrivés en masse. Ils savent déjà qu'ici, c'est une école à cantine scolaire. Et dès que vous commencez là, vraiment, vous constatez l'arrivée vraiment massive des élèves. Parce qu'ils savent qu'après, il y a le riz, je vais manger. Vraiment, les consignes jouent un rôle très important dans les écoles. Et je veux que ça puisse pérenniser aussi dans d'autres établissements qui n'ont pas la cantine scolaire.
À Brazzaville, les Congolais saluent cette initiative, mais critiquent les conditions peu hygiéniques dans lesquelles les repas sont cuisinés et servis. Faute de réfectoire, les élèves mangent dans les salles de cours, parfois même le sol. Il y a quelques années pourtant, la contribution du gouvernement atteignait 1 milliard de francs CFA l'année. Aujourd'hui, l'activité est presque devenue l'apanage des partenaires comme l'USAID, l'Union européenne et le Japon. À l'occasion d'une exposition photo organisée pour valoriser les cantines scolaires, le représentant du Programme alimentaire mondial a invité le Congo à reprendre la main sur cette activité. Mamadou Mbaye.
C'est que les filles égalent les garçons. L'abandon scolaire qu'on voyait dans le temps a diminué. Et le gouvernement congolais a été présent, financer les cantines scolaires à autour de 1 milliard et quelques. Jusqu'en 2015, ils nous ont même remboursé, nous, 600 millions de francs CFA. Quand on a continué, nous, sans eux. Et nous espérons qu'ils vont revenir. Notre but, c'est qu'ils les prennent, eux.
C'est depuis une vingtaine d'années que les États-Unis soutiennent ces cantines scolaires. L'ambassadeur Eugene Young assure que l'aide américaine va se poursuivre.
On ne peut pas apprendre bien si on ne mange pas bien. Alors, c'était comme ça aux États-Unis. C'était comme ça pour moi, comme un garçon. C'est comme ça maintenant aux États-Unis. Ça, c'est un signe de l'administration de notre gouvernement, sous le président, monsieur le président Biden. Et nous sommes ici pour accompagner le gouvernement et l'autre partenaire pour avancer l'éducation et le système d'éducation ici au Congo.
L'exposition photo du PAM sur les cantines scolaires se clôture le 2 novembre prochain. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Au Nigeria, trouver des solutions à la tendance croissante des enfants non scolarisés est devenu une urgence nationale. Selon l'UNESCO, 20 millions d'enfants ne sont pas scolarisés. Nathalie Barge relate ici un compte-rendu de Gibson Emeka, qui a rencontré des enseignants dans le nord du pays.
Joshua Gideon dirige une école primaire publique dans la communauté d'Arasabo, dans le nord du Nigeria. Ici, beaucoup d'enfants n'ont pas les moyens d'acheter des livres et d'autres fournitures scolaires.
L'éducation de base qui est nécessaire pour qu'un individu devienne quelqu'un dans l'avenir, si cette base ne lui est pas donnée, alors il va certainement faire des erreurs dans la communauté.
Le nombre d'enfants qui vendent des marchandises ou mendient dans les rues au Nigeria met en évidence l'ampleur du défi. Alors que l'enseignement primaire est gratuit et obligatoire, l'UNESCO estime que 20 millions d'enfants de 5 à 14 ans ne sont pas scolarisés au Nigeria.
Nous n'avons pas assez de chaises pour que ces enfants puissent s'installer et bien lire. Il n'y a pas d'environnement adapté. Nous avons besoin de bâtiments. Vous voyez que les nôtres sont déjà délabrés.
James Rotimi, enseignant, souligne que divers facteurs sont un frein à l'éducation.
Il y a des endroits où les filles ne sont pas envoyées à l'école et elles sont mariées précocement. Aussi, dans les zones de conflit où il y a Boko Haram, les gens sont déplacés. Il y a aussi des facteurs économiques. Beaucoup de personnes travaillent tôt dans la vie pour subvenir aux besoins de leur famille.
La Commission nationale pour l'éducation de base universelle a estimé que le pays devait construire 20 000 nouvelles écoles avec près d'1 million de salles de classe. Un projet ambitieux, selon l'enseignant, soulignant que seulement 5,4% du budget de l'État est réservé à l'éducation.
Il devrait y avoir des démarches pour inciter le secteur privé à investir dans le système éducatif, notamment des allègements fiscaux. C'est une question fondamentale. Aussi, les communautés pourraient également être impliquées.
Les enfants de moins de 15 ans représentent 42% de la population au Nigeria. Les experts soulignent que la mise en œuvre des politiques éducatives est lente et inégale. Et ils recommandent d'agir pour que tous ces enfants puissent aller à l'école.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Au Togo, les travaux du Lomé Peace and Security Forum se sont achevés hier à Lomé. Organisées par les autorités togolaises, les réflexions ont porté sur les transitions politiques dans les pays en crise en Afrique de l'Ouest et la gouvernance en Afrique. De Lomé, notre correspondant Kossi Wusu.
À cette rencontre de Lomé, qui se voulait un espace commun de construction de solutions coordonnées et pertinentes aux défis majeurs liés à la paix, à la sécurité et à la gouvernance, la situation des pays en crise en Afrique de l'Ouest a été abondamment évoquée. Sur la notion de transition collée au régime de ces pays, Babacar Konté, professeur de droit à l'université Gaston Berger au Sénégal, estime qu'il ne faut pas faire de confusion.
Un coup d'état militaire crée un régime d'exception pour ne pas dire un régime de fait. Mais cette parenthèse dans l'ordre constitutionnel qu'il faut fermer au plus vite ne doit pas être confondue avec la transition. Une transition, elle est politique. Une transition, elle est sociétale.
Laurie-Anne Terou-Benoni, directrice régionale de l'ISS, pense d'ailleurs que la teneur des transitions militaires devrait désormais l'emporter devant la durée de ces régimes d'exception.
Je pense qu'il n'est plus réaliste d'espérer des transitions courtes. Et dans ce contexte, l'une des possibilités, c'est véritablement d'optimiser les résultats des transitions en s'intéressant à leur teneur. Il faut cependant retenir que la gestion des transitions militaires et de la période qui suit une élection post-transition peut soit créer les conditions de la stabilité, soit préparer le terrain au prochain coup d'État.
Il faut alors soutenir ces pays en crise, dit Olivia Rouamba, la ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso.
Quand je pense que c'est une organisation sous-régionale ou que des Africains veulent qu'on puisse museler un pays comme le Niger, c'est un exemple parmi tant d'autres, que des sanctions inhumaines soient imposées, que des populations soient affamées actuellement, et moi j'avoue que ça c'est pas l'Afrique, c'est pas du tout l'Afrique. Et tout cela contribue justement à exacerber ce phénomène de fragilité de nos institutions.
Pour Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères du Mali, il faut que les institutions sous-régionales respectent leurs propres textes et changent leur logiciel de sanctions qui n'empêche pas la répétition des crises.
Dans beaucoup de ces organisations, à la CEDEAO, à l'UEMOA, les textes ne sont pas respectés. Je défie qui que ce soit de me sortir dans un texte de la CEDEAO où on a prévu la fermeture de frontières, de me sortir un texte du traité de l'UEMOA où on a prévu d'exclure un pays pour des considérations politiques. Donc ça, c'est extrêmement important qu'il faut qu'elles changent leur logiciel pour sortir du mode punition-sanction. Si la sanction marchait, le Burkina a basculé quand le Mali était sous sanction. Le Niger a basculé. Donc quelque part, on doit s'arrêter comprendre. Est-ce que le tout sanction, tout punition, ça marche?
Participant à ce forum de Lomé, le général Mohamed Toumba, ministre de l'Intérieur du Niger, a dénoncé les sanctions imposées à son pays par la CEDEAO, sanctions qu'il a qualifiées d'iniques et de cyniques. Kossi Wusu, Lomé, pour VOA Afrique.
Salut les amis, c'est Yacouba Ouédraogo. Tout le lundi soir, VOA Afrique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs. Rendez-vous en direct dans Sporama à 19h, temps universel. Pour participer, c'est très simple. Vous pouvez appeler en direct ou laisser vos commentaires et numéro de téléphone sur notre page Facebook. Nos spécialistes du sport sur le continent sont là pour vous apporter leurs éclairages. À très vite sur le terrain de VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Seludia, à la mise en onde de Georges Léonard Sagno, à la console Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, X, l'ex-Twitter et Instagram seront suivis de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.